connaissez Dieu ?
Je connais pas.
Moi, je connais parce que c'est lui qui a construit la terre.
Je sais pas, moi, Dieu, ça peut être quelqu'un à qui on croit, à qui souvent on peut confier son secret, quelque chose comme ça. Moi, où il habite, ça peut être dans le paradis ou alors...
Il est plus grand que l'univers, il habite nulle part, il est... C'est partout où il habite.
Au septième ciel.
Pour de vrai, il existe Dieu.
Peut-être que notre invité a la réponse à cette question. Peut-être pourra-t-il répondre à ces enfants qui se posent de sacrées questions. Dieu existe-t-il? Où habite-t-il? Rémi Brague, on va en reparler avec vous dans l'actualité des idées aujourd'hui. Surtout, le retour du religieux ou de la religion. C'est en tout cas à cette question que s'attache votre livre, votre nouvel essai aujourd'hui. Rémi Brague, philosophe, spécialiste de philosophie médiévale, arabe et aussi du christianisme, auteur dernièrement de Modérément moderne, mais aussi de Le règne de l'homme, genèse et échec du projet moderne, un ouvrage paru en 2015. Projet que vous définissiez comme un besoin de rupture avec tout ce qui nous précède, le passé, mais aussi la nature et Dieu, en s'appropriant la première et en se substituant au second. Dans Sur la religion, qui paraît aux éditions Flammarion, Rémi Brague refait de la religion un sujet de conversation, évalue la place nouvelle qu'elle a pris dans nos esprits, entre peur et fascination, chez les croyants et les non-croyants, entre incompris et impensé. Ici, il dit envisager la religion dans ce qu'elle dit de Dieu et de l'homme, dans ses rapports aussi avec le droit et la politique, la religion comme rempart ou menace de notre liberté morale. Il revient enfin sur le concept de laïcité, cette cote mal taillée à qui chacun fait dire ce qu'il veut. C'est aussi un peu le cas de la religion aujourd'hui. Bonjour Rémi Brague.
Bonjour.
Bon, Dieu existe-t-il ? On peut y répondre simplement ?
Non.
Bon.
Non, les enfants sont les dernières personnes à interroger à ce sujet. Il vaudrait mieux poser la question, par exemple, à certains philosophes. Je suis un peu du métier, donc je plaide pour ma corporation, qui commencera par dire que si Dieu existe, ça n'est certainement pas de la même manière que cette bouteille d'eau qui est devant moi, ou même que moi-même. Qu'une personne humaine supposée libre et rationnelle, si Dieu existe, il est plus qu'une personne. Et donc, il doit être encore plus personnel que nous ne le sommes. Par exemple, ne pas avoir besoin d'un corps, ne pas avoir besoin d'une visibilité pour être lui-même. Alors une fois qu'on a dit ça, bien entendu, on va se demander est-ce qu'il y a des signes qui nous permettent d'en avoir une petite idée, même si nous ne pouvons pas le voir, puisqu'il n'a pas besoin de se montrer. Il n'a pas besoin de se montrer peut-être pour des raisons qui relèvent de la bonne éducation. En ce sens que lorsque on me demande mon chemin dans la rue, un parfait inconnu me demande bon, où est la rue machin ou la rue truc, je n'ai pas besoin de donner mon nom. Je lui dis simplement bon, la première à droite, puis la deuxième à gauche, ou des choses de ce genre-là. En d'autres termes, si Dieu est pure générosité, s'il met à notre disposition ce que nous appelons la création, lorsque nous considérons que le monde est une création, là, il n'a pas besoin de dire « Tiens, au fait, c'est Bibi qui a fait tout ça ». En revanche, il va devoir le dire lorsque, on s'approchera de questions un petit peu plus fines. De la même manière que nous donnons notre nom, ou même éventuellement notre carte de visite, lorsqu'il s'avère que le parfait inconnu que nous avons croisé dans la rue, a besoin de quelque chose de plus spécifique. Par exemple, je ne sais pas si nous sommes médecins, qu'ils cherchent un docteur. Je tenais justement, je suis cela. Alors, c'est un petit peu ce que fait Dieu. Lorsque l'on a vraiment besoin de lui, il le dit. C'est ce qu'on appelle en théologie la révélation.
Alors merci beaucoup Rémi Brague pour cette tentative de réponse improvisée, même si vous avez dû longtemps ou à plusieurs reprises durant votre parcours tenter d'y répondre. Vous ne définissez pas ce qu'est Dieu dans ce livre sur la religion, vous ne répondez pas à la question de savoir s'il existe ou pas. En revanche, vous vous interrogez sur la notion et la définition même de la religion. C'est même le premier chapitre de cet essai sur la religion. Le fait qu'on admette l'existence d'un principe suprême de l'être, écrivez-vous, qu'il s'agisse d'un absolu abstrait ou d'un dieu personnel, ne constitue pas encore une religion. Pour que celle-ci naisse, il faut aussi que l'on soit au clair sur la voie qui permet d'accéder à cet absolu ou à un dieu. Que faut-il alors pour faire religion, Rémy Brague ?
Écoutez, je n'ai pas parlé beaucoup de Dieu dans ce livre, parce que le titre indique que je parle de la religion. J'ai voulu un titre d'ailleurs plat comme plusieurs limandes, pour montrer qu'il s'agissait d'une conversation. J'ai bien aimé le mot que vous avez employé tout à l'heure. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de polémique, qu'il ne s'agit pas non plus d'un traité savant, si vous voulez, d'un traité académique en bonne et due forme, mais d'une conversation entre gens que l'on suppose bien élevés, que l'on suppose de bonne compagnie, et qui vont se demander de quoi il est vraiment question quand on parle de religion. Parce que voilà un mot qui apparaît assez souvent dans la conversation. On avait essayé de le faire oublier. Et puis, il y a ce fameux retour du religieux dont vous avez parlé tout à l'heure, retour qui n'existe pas. Il y a simplement que les intellectuels qui, pendant longtemps, se sont imaginés que le religieux n'existait pas ou n'existait plus ou ne devait plus être pris au sérieux, font retour, c'est eux qui retournent sur le religieux. Les intellectuels occidentaux ont, pendant pas mal de temps, voyagé dans des tuyaux étanches qui les menaient d'un endroit sécularisé du monde à un autre endroit sécularisé du monde. C'est pas moi qui le dis, c'est un sociologue austro-américain, Peter Berger, devenu Peter Berger, qui s'amusait à dire que les intellectuels européens ou occidentaux, d'une manière générale, étaient comme des Suédois d'adoption. Enfin, il s'agissait de l'époque, c'était les années 60, n'est-ce pas, où la Suède faisait figure de parangon, de sécularisme. On y allait pour voir un peu ce que donnait une société dans laquelle on avait mis entre parenthèses le problème de Dieu. Donc ces gens-là, qu'ils vivent en France, aux États-Unis, en Autriche ou n'importe où, avaient d'une certaine manière choisi d'être dans leur fort intérieur des Suédois, ou comme des Suédois. Alors on s'aperçoit depuis quelques années que le problème n'est pas réglé, qu'il faut le poser, et qu'il faut le poser de la manière la plus civilisée, la plus paisible que l'on puisse. Alors, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est un livre, je crois, tranquille. Enfin, je ne pense pas élever la voix à aucun moment.
Est-ce que c'est nécessaire pour vous aujourd'hui de remettre la religion au centre de la conversation et de la discussion? C'est-à-dire qu'après le règne de l'homme, où vous faisiez à la fois le constat de ce qu'est le projet moderne, tout en soulignant ses échecs, est-ce que vous estimez qu'aujourd'hui encore, il y a de retours en arrière qui sont salutaires, que nous serions en pleine fuite en avant et qu'il faudrait se raccrocher à certaines choses du passé pour essayer de se ressaisir de cette époque, Rémy Brague?
Alors écoutez, ce n'est pas moi qui remet la conversation, autour de la religion ou qui remet la religion au centre de la conversation, pour inverser l'image. Elle est là, elle frappe à notre porte, parfois d'une manière, si j'ose dire, explosive, au sens propre du terme, malheureusement. Donc, autant la faire entrer dans la conversation, plutôt que de la laisser prendre des aspects franchement criminels, et en tout cas extrêmement désagréables. La question est de savoir, justement, si ce retour... Enfin, si parler d'un retour ne serait pas une manière de nous faire accroire que la religion appartient au passé. C'est ce qui était implicite dans votre phrase, n'est-ce pas ? Un retour en arrière. Alors, un retour en arrière, je vais plaider quelques instants pour le retour en arrière. Si l'on s'aperçoit que l'on s'est engagé dans une impasse, la conduite la plus rationnelle, c'est de faire marche arrière. de retourner à l'entrée de l'impasse dans laquelle on s'est engagé imprudemment. Et pour quoi faire ? Ben pour pouvoir continuer, justement. Parce que si l'on continue à s'engager dans l'impasse, on va, comme on dit, dans le mur. Donc, ce que j'essaye de faire, et je crois que c'est la tâche de tout philosophe d'une manière générale, c'est d'essayer de se demander si par hasard, à certains moments, nous n'aurions pas pris la mauvaise direction. La direction qui va nous mener dans le mur.
Mais vous avez parlé quand même du reflux du religieux, Rémy Braque, comme une illusion du modernisme. Et dans ce sens-là, on peut imaginer que cet essai sur la religion s'inscrit quand même dans le prolongement de votre réflexion autour du projet moderne.
Ah, tout à fait.
Et de l'état de notre société.
Il s'inscrit également dans une réflexion sur le fait que depuis quelques années, peut-être quelques décennies, on parle alternativement d'un recul et d'une avancée, d'un flux et d'un reflux du religieux. Par exemple, et ça arrive même chez certains auteurs, qui pondent un livre pour expliquer que finalement le danger de l'islam politique n'existe plus. Et puis 2 ans après, ils font un livre pour dire que finalement, si, il existe, et encore, il recule. Donc, ce qui existe de manière caricaturale chez certains auteurs, existe de manière plus vaste et plus apaisée, disons, dans le monde intellectuel occidental. Tantôt, on dit, ça y est, c'est fini, et puis non, au contraire, ça revient. Alors, ben, j'essaye de tracer un chemin qui aille un petit peu entre les deux et regarder ce que c'est que la religion. Et je reviens là à votre question, qui est celle de la définition de la religion. Je refuse d'en donner une. Je refuse d'en donner une parce que, justement, selon moi, dès que l'on dit la religion, dès que l'on dit encore plus les religions, on croit en mettant un petit peu de pluralisme que l'on va simplifier les choses. En fait, je crois que ça les complique plutôt. On s'engage à mettre dans le même panier, et pour certains dans la même poubelle, des phénomènes qui n'ont pas grand-chose à voir les uns avec les autres. Un exemple simple, est-ce qu'on peut mettre dans le même panier la religion des anciens Aztèques qui admettaient le sacrifice humain, celle des Carthaginois qui, voir le Salammbô de Flaubert, faisaient la même chose, et d'ailleurs nos ancêtres les Gaulois, eux aussi, plusieurs témoins de l'Antiquité l'attestent, pratiquaient les sacrifices humains. Donc est-ce que l'on peut mettre dans le même panier une, entre guillemets, religion qui admet, voire prône, encourage, repose sur le sacrifice humain d'une part, et puis d'autre part, mettons le bouddhisme, qui a un respect absolu pour la vie, dont les moines refusent même d'écraser un petit moucheron qui serait par terre, c'est pourquoi ils balayent le sol devant eux. Bon, dire tout cela, c'est de la religion. Bon, évidemment, si je disais tout cela, c'est des haricots verts, on me dirait, bon là, non, ça marche pas. Donc religion est un mot qui marche plutôt moins mal que haricot vert. Mais il faut quand même pas le presser à l'excès.
Alors de quoi parlez-vous dans ce livre ?
Eh bien, alors je parle des phénomènes qu'un vain peuple, à commencer par moi-même quand je ne me surveille pas, affuble du nom de religion. Parce que, ben voilà, si vous êtes libraire et que vous recevez un livre sur le bouddhisme, un livre sur l'islam, un livre sur le christianisme, un livre sur le shinto, ben vous allez les classer plutôt dans la rubrique religion que dans la rubrique jardinage.
En actant quand même, Rémy Braque, ce besoin de croyance qui se retrouve aujourd'hui dans nos sociétés. On peut parler de ces nouvelles religions, vous évoquez rapidement sur la religion, l'humanitarisme, la foi dans le progrès, la religion technologique ou numérique, toutes ces divinités qui sont apparus avec l'ère moderne. Tout ça montre que nous avons, d'après vous, quand même un besoin de religion aujourd'hui, que croire ne serait pas suffisant, qu'il y a cette envie d'engagement dans cette croyance.
Cette idée-là, elle est vieille comme le monde. Je n'ai pas eu à la chercher très loin. La dernière fois que je l'ai rencontrée, par exemple, c'était dans l'article de Jean-Paul Sartre, qui n'était pas un esprit d'une grande piété, sur Georges Bataille, cet article assez méchant d'ailleurs, qu'il appelle un nouveau mystique ou quelque chose comme ça, Monsieur Georges Bataille. Il parle de la persistance du besoin religieux. Alors devant ces phénomènes que l'on qualifie de religieux, je crois qu'il faut faire très attention. Parce qu'il y a deux écueils, si vous voulez. Le premier écueil, c'est celui qui consiste à appeler religion ou religieux, en gros, tout ce que l'on n'aime pas. Toutes les convictions un peu fortes dont on pense qu'elles feraient mieux de se taire. Alors le meilleur exemple de cela, je crois, c'est la notion de religion politique qui a rendu de bons services, si vous voulez, au moment où il s'agissait de combattre d'un côté le nazisme, de l'autre côté le léninisme sous sa version stalinienne. Un grand esprit, un immense esprit comme Raymond Aron a parlé de religion séculière ou de religion politique. Je ne sais plus exactement quel était son terme. Bon, là, je crois qu'il faut prendre au sérieux les gens auxquels on attribue justement cette religiosité. Par exemple, Hitler, qui devait quand même connaître un peu ce qu'était le nazisme et qui a déclaré, bon, je crois que je le cite quelque part, hein, en 1936, à un congrès de culture nazie, si j'ose cette formule, évidemment un petit peu gauloise, qui a dit le nazisme, le national-socialisme, bien entendu, est une vision froide de la réalité qui repose sur les acquis de la science la plus récente. Alors il pensait à une sorte de darwinisme compris d'ailleurs d'une manière qui aurait fait honte au pauvre Charles Darwin. Bon, une sorte de darwinisme social, il y a des races qui luttent pour la survie et celles qui sont les plus faites, les plus capables de survivre l'emportent sur les autres. Bon, ceci d'une part.
Voilà, pour la religion politique, oui. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, vous dissociez bien aussi, vous, dans le besoin actuel qui semble s'exprimer, la place en tout cas du religieux, la question de la spiritualité aussi qui peut peut-être se substituer à cela?
Oui, je n'aime pas trop le terme de spiritualité, d'abord parce que esprit, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, spirituel, on ne sait pas non plus trop ce que ça veut dire. Et puis surtout, la différence entre ce qu'on peut appeler la spiritualité au sens où on l'emploie de nos jours, je ne parle pas de la spiritualité au sens où c'est par exemple l'objet de ce magnifique dictionnaire de spiritualité qui doit faire une trentaine de volumes et qui a demandé des contributions aux gens les plus sérieux, avec une exception puisque j'y ai fait un article. Bon, ce qu'on appelle spiritualité maintenant, c'est tout ce qui ne mange pas de pain. Tout ce qui permet de chatouiller votre inquiétude, que j'appellerais, pour être vraiment grossier, métaphysique, mais sans vous demander un engagement trop intense. Les idées avec lesquelles on joue, si vous voulez. Enfin, ça serait bien si c'était comme ça. Ça serait tellement émouvant si c'était comme ça. Bon, on reconnaîtra une bonne partie de ce qui se vend dans les librairies auxquelles j'ai fait allusion tout à l'heure sous la rubrique religion. À savoir du développement personnel, des choses comme ça. Enfin, tout ce qui vous chatouille là où ça vous gratouille. Bon. Allez-y, excusez-moi.
Finissez, je vous en prie.
Je vous en prie. Non.
Non, moi je voulais vous faire reparler après de politique et religion.
Il y a d'une part, justement, alors cette façon d'affubler du terme de religion toute conviction ou toute idéologie, je crois que le mot idéologie serait infiniment plus juste. Et puis il y a d'autre part, alors effectivement, des adhésions profondes. D'ailleurs dont je n'ai aucunement le droit de nier la sincérité pour des choses qui... alors on se cite de religieux que... de non-religieux, pardon, ceci qui les distingue de la religion, que on croit pouvoir en faire la preuve expérimentale. Par exemple, la religion du progrès. Bon, il est clair que nous en savons. Enfin, que l'humanité en sait beaucoup plus qu'il y a, il y a même que l'année dernière, à plus forte raison, il y a quelques siècles. Il est clair également que la technologie fait des pas en avant absolument prodigieux. Bon. Le problème, c'est qu'on extrapole de ces avancées qui sont indéniables, qui sont spectaculaires, l'idée héritée du siècle dit des Lumières, du XVIIIe siècle, selon laquelle le progrès scientifique et technique doit avoir pour conséquence quasiment automatique, peut-être avec un petit peu de retard dans certains cas, bon, mais en tout cas doit entraîner à long terme un progrès dans les institutions politiques et dans les rapports sociaux, lequel progrès devrait lui-même entraîner, là aussi de manière quasiment naturelle, pourrait-on dire, bien qu'il s'agisse de choses totalement artificielles, un progrès moral. En d'autres termes, plus vous êtes savant, plus vous êtes bien organisé en politique, plus vous êtes mieux vous êtes gouverné, et donc plus vous êtes gentil, plus la bonté de l'humanité monte, si je puis dire.
Rémi Brax, sur ce point, on a vu par exemple, à propos de progrès ou de science, la réouverture des débats sur la PMA, la GPA, la fin de vie, donc tout ce qui est aussi donner la vie et terminer une vie, dans le cadre des états généraux de la bioéthique qui viennent de commencer et qui vont se poursuivre pendant 6 mois. C'est une réflexion collective qui s'engage, à laquelle chacun peut apporter aussi sa parole. Est-ce que la religion a son mot à dire sur ce type de sujet ?
Certainement pas directement. Je veux dire, il s'agit d'une question de compétence et presque une question de subsidiarité, si je puis dire. Vous connaissez le principe de subsidiarité qui consiste à dire que là où une instance inférieure fait bien son travail, c'est pas la peine de mobiliser l'instance inférieure. Donc, je crois que ce dont on a besoin, vous allez dire que je plaide pour mon sein, c'est quand même avant tout de philosophie. Il est amusant d'ailleurs de voir que on essaye de réduire, si vous voulez, certaines attitudes, en particulier des attitudes opposées à la PMA ou à la GPA, enfin je veux dire à l'allocation d'utérus. On essaye de réduire les oppositions à des raisons religieuses. Or, s'il y a une question qui demande des réflexions au niveau philosophique, c'est bien ce genre de question. Alors, il ne faut pas faire intervenir trop vite des principes religieux. Parce que dans ce cas, on peut très bien dire, bah oui, vous dites ça parce que, d'un autre côté, je ne sais quelle révélation, je ne sais quel livre saint, je ne sais quel prophète vous a dit, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Comme si c'était de quoi il est question dans la religion. Et en particulier, j'ai un passage là-dessus dans le christianisme, qui a cette particularité de ne pas prêcher une autre morale que la morale rationnelle.
Mais dans la rue, quand on a eu la manif pour tous, par exemple, c'était pas que des philosophes qui ont défilé pour ou contre certains sujets. On a bien vu là des militants avec des sensibilités catholiques affirmer, se prononcer sur des sujets qui concernaient la famille, la question du corps des femmes, la question de la fécondité aussi, ou de la féconde, de comment avoir un enfant, et la fin de vie avec l'euthanasie.
Alors, bon, il y avait au moins un philosophe, à savoir votre serviteur, qui défilait, bien qu'il ait horreur de ça. Et il a défilé parce que, justement, il lui semblait que ce dont il s'agissait, ce n'était absolument pas la défense d'une religion ou la défense d'une morale religieuse, à supposer que cela existe, mais il s'agissait de l'humain en général. Alors, bon, il est clair que l'Église catholique a des capacités de mobilisation plus fortes que je ne sais quelle autre association, tout simplement parce qu'il existe un réseau de paroisses et des choses comme ça. Ça, c'est bien clair. Mais si l'on regarde ce dont il s'agissait d'affirmer la dignité, ce n'était absolument pas la dignité des curés. C'était la dignité, par exemple, de l'enfant.
D'accord. On va continuer parce qu'il y a pas mal de sujets quand même qui sont ouverts dans cet ouvrage, et notamment celui de la laïcité, celui aussi de la relation ou du rapport des religions ou des monothéismes entre eux. Et à propos de la laïcité, on a aujourd'hui Rémy Brague, un président qui se dit réceptif à la transcendance de nos vies, qui n'hésite pas à citer Jaurès sur ce sujet, en estimant qu'il serait mortel de comprimer les aspirations religieuses de l'âme humaine. Ça, c'était lors de ses vœux aux autorités religieuses début janvier. À propos de cette relation entre le religieux et le politique, vous estimez dans un chapitre qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que l'Église et l'État sont séparés, qu'il y a séparation, puisqu'ils n'ont jamais été liés. Et vous vous en expliquez, séparer religion et État n'est pas chose facile. Chez nous, la réponse est la fameuse laïcité qu'on dit à la française pour s'épargner la tâche impossible d'en fournir une définition un peu cohérente. Emmanuel Macron s'est prononcé lors de ses vœux aux autorités religieuses sur cette question de la laïcité. Il en a donné une définition. Qu'est-ce que vous en pensez? Le rôle de la laïcité, dit-il, n'est pas de gommer ni d'être une forme quelconque de religion d'État, mais d'assurer ce cadre. Et la laïcité est pour moi le cadre indispensable de cette neutralité en ce qu'elle permet aux consciences libres de se forger. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette définition-là, cette place qu'il accorde à la laïcité?
Je me permets d'abord de corriger, vous m'excuserez, une de vos formules. Je n'ai jamais dit que religion et politique n'aient jamais été liés. Je dis que religion et politique, en tout cas en régime chrétien, n'ont jamais été identifiés. En d'autres termes, que dès le début, il a existé d'une part l'Église, d'autre part l'État. Au début, c'était très clair, puisque l'État romain persécutait les communautés chrétiennes. Donc le danger de confondre les deux était quand même assez minime. Et dans la suite de l'histoire, bon, je raconte, je ne vais pas répéter mon bouquin.
Alors vous dites pas lié, vous dites uni. Ça, c'est écrit comme tel. J'ai bien envie de répondre de la même façon à la question contient mon titre. L'Église et l'État sont-ils séparés? Page 146. Eh bien, ils n'ont jamais eu à le faire, à s'arracher l'un de l'autre, parce qu'ils n'ont jamais été si intimement liés qu'ils constituaient une unité. L'Église et l'État n'ont jamais été séparés parce qu'ils n'ont jamais été unis.
Voilà, oui, donc j'ai dit ils n'ont jamais été liés. Il y a une négation que vous avez oubliée dans votre phrase.
Ah bon ?
Et qui quand même joue un certain rôle. Bon, je reprends sur la laïcité. Bon, la laïcité, je n'aime pas qu'on lui accole un adjectif. Que ce soit la laïcité ouverte, que ce soit la laïcité fermée, c'est la laïcité tout court qui m'intéresse. Et je dis que c'est un mot qui est le résultat d'une histoire longue et sinueuse, d'une histoire de conflit, d'une histoire pas tout à fait agréable, c'est le moins qu'on puisse dire. Enfin, je suis tout à fait amateur de litote, comme vous l'avez sans doute remarqué. Bon, c'est le résultat. C'est un compromis qui a été trouvé. C'est une cote plus ou moins bien taillée entre l'État français et, disons à 99%, l'Église catholique. La loi de 1905 ne visait que de très très loin les églises protestantes et les communautés juives. C'était le problème, c'était la puissance sociale et institutionnelle de l'Église catholique. Alors on a trouvé cette solution qui est la laïcité. Et c'est une solution que, telle que je comprends moi-même la laïcité, car on peut faire voguer sous ce pavillon toutes sortes de marchandises, telle que je comprends la laïcité, il s'agit d'une stricte neutralité de l'État en matière de religion. C'est-à-dire que l'État est non seulement neutre entre les religions qui existent, mais il est neutre par rapport à la nécessité même d'une religion. Il ne fait de propagande, il ne jette dans la balance son poids ni en faveur de la religion, ni en faveur de la non-religion, enfin de l'athéisme pour faire simple. Et à l'intérieur du plateau de la balance qui contient les religions, il ne choisit pas telle ou telle religion. Donc je comprends ça comme une neutralité de l'État, et comme chrétien, ça ne me dérange absolument pas, puisque, bon, comme j'ai essayé de le montrer dans le chapitre auquel vous avez fait allusion, cette séparation, cette distinction des instances existe depuis toujours. Elle est constitutive même. Et j'ai une image qui vaut ce qu'elle vaut. Je dis que la séparation de l'Église et de l'État n'a fait que découper selon le pointillé. Le pointillé était déjà là. Séparer l'Église et l'État, je ne sais pas, dans la Grèce ancienne ou dans la religion romaine, c'est pas possible. Il y a la cité qui est à la fois religieuse et politique.
Donc ne pas faire de la laïcité, en tout cas une religion d'État, ça vous convient, Amy Brague ?
Si l'État doit être neutre envers toutes les religions, et si la laïcité se prenait pour une religion, il faudrait aussi que l'État lui dise, bon, du calme, restez tranquille, à la niche.
Alors voilà, question de Camille Magnard, il reste 2 minutes.
Vous nous disiez que vous vouliez faire un livre, en vous tenant éloigné, en tout cas un livre qui ne soit pas polémique, alors que la religion, les questions religieuses sont très polémique, on a l'impression dans la société d'aujourd'hui. Vous consacrez les 2 derniers chapitres de votre livre à la question de la violence. Qu'est-ce que vous nous dites sur la violence des différentes religions comparées? Et est-ce que c'était possible dans la façon dont les médias ou peut-être aussi ont reçu votre livre et vous ont interrogé d'échapper justement aux considérations et aux comparaisons qui pourraient donner lieu à des polémiques?
Alors bon, j'ai essayé d'éviter la polémique, mais enfin peut-être que ma mauvaise nature a repris le dessus. Vous savez, je suis très méchant dans le civil, donc j'ai peut-être dit des choses que je regretterais. Enfin, j'ai essayé de me relire et de gommer un petit peu tout ce qui pourrait fâcher. Bon, je ne suis pas sûr d'y être parvenu. Bon, enfin ça c'est le problème de tout écrivain. Ce que j'ai essayé de faire dans ces 2 chapitres sur la violence, c'est justement de nuancer, de différencier. Lorsque l'on dit les religions fomentent la violence ou la religion est intrinsèquement violente, bon, je trouve ça assez irresponsable et surtout je trouve que ça, qu'on parle de très loin, enfin, on ne regarde pas de près les choses.
Mais est-ce que certaines le sont plus que d'autres? Certains vous ont reproché dans cet ouvrage de hiérarchiser les 3 monothéismes sur cette question notamment de la violence et de la liberté.
S'il ne s'agit que des 3 monothéismes, là effectivement la chose est plus intéressante. J'allais dire que la religion qui admet les sacrifices humains auxquels j'ai fait allusion tout à l'heure est plus violente qu'une autre qui ne l'admet pas. Là, bon, je crois que c'est, on peut l'admettre. Alors, à l'intérieur des 3 monothéismes, il faut là aussi distinguer, comme dans toute religion, les sources de la religion, enfin les documents, par exemple, ou les attitudes qui sont considérées comme normatives par les adeptes d'une religion en question, et puis ce que les adeptes en font. J'ai pris comme exemple à un moment le fait que les généraux japonais, bouddhistes zen, se sont rendus coupables, je ne sais pas, à Nankin, à Shanghai, dans d'autres régions, d'espièglerie tout à fait de mauvais goût. Bon, je veux dire qu'ils ont massacré, torturé, violé, enfin fait violer par d'autres, etc. Alors qu'ils étaient bouddhistes. Est-ce que l'on peut dire c'est la faute au Bouddha? Certainement pas.
Donc vous appelez à une distance avec les textes.
Bien entendu.
Et pour ce faire, je vais aussi renvoyer les auditeurs vers un autre livre qui vient de paraître, celui de l'historienne Valentine Zuber, Donner un avenir. Elle réfléchit aussi à l'avenir du catholicisme aujourd'hui en France notamment, et elle plaide pour un catholicisme inventif qui permettent de réinterpréter la tradition, un catholicisme qui se réécrirait au jour le jour. Je renvoie aussi vers l'émission de Raphaël Bourgois, Avis critique, celle du 20 janvier dernier, où 2 critiques, Joseph Confavreux et Eugénie Bastier, l'un de Mediapart, l'autre du Figaro, ont donné leur avis sur votre livre, ont débattu autour de Sur la religion, Rémy Brague, Sur la religion qui vient de paraître chez Flammarion. Un grand merci à vous et un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table.
C'est moi qui vous remercie.